There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Non, non, non. Tout au long du mois de février, Popourichou, en partenariat avec la Compagnie Créole à Montréal, présente la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs. Une belle occasion pour découvrir les artistes et la richesse de la diaspora africaine au Canada et les tribus pour lesquelles la culture africaine continue de rester au cœur du mode de vie. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, avec Festival Théâtre à Communauté Noire et Popourichou sur CUT 89,5 FM. Tous les détails sur popourichou.com. Bon mois de l'histoire des Noirs avec la compagnie Théâtre à Créole et CUT FM. En 2024, CUT FM, en partenariat avec RFI France 24 et ses partenaires communautaires francophones et créoles, vous fait découvrir les francophonies dans toute leur diversité. Pour rien au monde, ne manquez pas nos grands rendez-vous. Festival Jeunesse Ciné Franco, Festival Théâtre à Communauté des Noirs avec la compagnie Théâtre Créole en février et mars. Le mois de l'histoire des Noirs en février avec Sophie Franc. Le mois de la francophonie en mars. Le mois de l'histoire autochtone, le mois des fiertés, au mois de juin. La fête nationale française, le 14 juillet. Festival Compazouk Efkazo, au mois de juillet, août. Le mois du créole avec Kepka, en octobre. Le festival Ciné Franco, grand public en novembre. Les nouveautés littéraires, avec les éditions Prise de Parole. Les nouvelles des Français de l'étranger, avec l'association Français du Monde, Toronto. Popourichou. 37 ans déjà, chaque dimanche de 11h à 13h sur www.cut.fm en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Concerts, spectacles, des cartes cadeaux, des places VIP, des émissions spéciales, des conférences du CREFO, les visites guidées de la Société d'Histoire de Toronto et les bons plans de nos partenaires de la région et du monde francophone. Abonnez-vous immédiatement à nos bulletins d'information pour ne rien manquer. Devenez membre, chroniqueur ou partenaire de la seule émission en langue française sur la Radio Campus de l'Université de Toronto. Vous avez une thématique à nous proposer, une nouvelle à nous partager? Alors faites vite, écrivez-nous à popourri@cut.fm ou visitez tout simplement notre site web popourrichou.com. 2024, c'est l'année des voix des sans-voix sur CUT 89,5 FM. Popourichou, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
En 2017, le soir de votre élection, vous disiez vouloir, je cite, « tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Et pourtant, la liste menée par Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'imaginent carrément déjà se partageant les rôles, l'une à votre place, à l'Élysée, l'autre à Matignon. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cette progression? N'est-ce pas un aveu d'échec? Quant à 2027, ne craignez-vous pas de voir votre héritage politique totalement entaché si dans 3 ans et demi, vous laissez les clés de l'Élysée à Marine Le Pen?
Dimanche 21 janvier 2024. Bonjour et bienvenue à votre magazine de la francophonie, Popourichou, sur CUT 89,5 FM, sur le campus de l'Université de Toronto, sur la bande 89,5 FM, et en ligne sur www.cut.fm, ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Rogers Cable 946. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 37 ans. Pour écouter nos émissions tout au long de l'année, une seule adresse, où que vous soyez dans le monde, popourichou.com. Et l'émission d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs et la Société d'Histoire de Toronto. Et oui, c'était l'anniversaire de mon idole cette semaine, Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 à Paris. Auteur, compositrice, interprète, actrice française. C'est ma jeunesse, quoi. Mes belles années 60. Nostalgie, nostalgie oblige. Celle qui est condamnée par la maladie. Courage et bon anniversaire, Françoise Hardy. Au menu ce dimanche, que veut dire parler mal? Que se passe-t-il quand on s'entend dire qu'on parle mal sa langue maternelle? L'insécurité linguistique au Canada. Pascal Paradoux, adjoint à la directrice de RFI, chargée des opérations culturelles et de la francophonie, reçoit Bianca Richard et Gabriel Robichaud. Il lance le défi de découvrir cette malédiction et examine l'état de l'expression de la langue franco-canadienne et acadienne. Ce documentaire cherche à révéler ce malaise social et à comprendre son impact sur les communautés francophones au Canada. Théâtre à l'école, impôts, congés de naissance, Depardieu, guerre en Ukraine, le réchauffement climatique. Que faut-il retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron de mardi dernier? La rentrée littéraire du début d'année avec la librairie francophone et Emmanuel Kérade qui nous présente le prix Nobel Jean-Marie Gustave Lesclézio. Il raconte son identité dans un petit livre de récits confidences, Identité nomade, publié aux éditions Robert Laffont dans la deuxième heure. La Société d'histoire de Toronto a remis à Madame Paulette Collet le prix Jean-Baptiste Rouchaud, décerné annuellement à une personne qui a joué un rôle exceptionnel dans la promotion de la langue française et du patrimoine francophone de Toronto. Cette remise de prix s'est déroulée au Collège français alors que Paulette Collet dirigeait les répétitions pour sa production théâtrale Le Malade Imaginaire de Molière qui sera présentée sur scène les 26 et 27 avril prochains. Paulette Collet possède le talent qui n'appartient qu'aux formateurs et mérite celui d'extraire de leurs élèves le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes enchantés de décerner ce prix à une personne généreuse de son temps, de sa culture et de son art de comédienne, a déclaré Christian Bode, secrétaire de la Société d'histoire de Toronto. La troupe des anciens de l'Université de Toronto a vu le jour en 1969 et a présenté sans discontinuer, sauf pour cause de pandémie, des pièces du répertoire classique français. Nos félicitations les plus chaleureuses à Madame Collet. Vous retrouverez les détails sur notre site web popourichaud.com. Le passage du cyclone Belal dans l'océan Indien a fait un quatrième mort à l'île de la Réunion. Et oui, l'île Maurice a été prise de court lundi dernier par de très fortes précipitations. En quelques heures, les rues de la capitale, Port-Louis, ont été submergées. Des images capturées via smartphone par les commentaires, et oui, nous pouvons aussi lire des commentaires qui les accompagnent, témoignent de la stupeur générale. Bilan 2 morts et des milliards de roupies de dégâts. Et l'émission en hommage au professeur et juriste Jean-Gabriel Castel de dimanche dernier a suscité beaucoup de réactions et d'intérêt. Un immense merci pour vos messages et un merci spécial au professeur émérite et poète ami de toujours de la radio. Professeur Eddy Bouraoui, qui a bien connu Jean-Gabriel Castel, ils étaient de très grands amis et il m'a même partagé de très beaux souvenirs que j'espère un jour nous aurons l'occasion de partager ici même sur cette antenne. Et mobilisation contre le Premier ministre en Haïti, activité paralysée, barricade, la tension était aussi palpable dans d'autres villes du pays cette semaine, notamment dans la capitale. On en fait le point avec Godson Pierre, directeur d'Alter Press. Popourri Show, un refuge pour la diversité des voix et la liberté d'expression. 37 ans déjà. Merci de votre fidélité.
En 2017, le soir de votre élection, vous disiez vouloir, je cite, « tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Et pourtant, la liste menée par Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'imaginent carrément déjà se partageant les rôles, l'une à votre place à l'Élysée, l'autre à Matignon. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cette progression? N'est-ce pas un aveu d'échec? Quant à 2027, ne craignez-vous pas de voir votre héritage politique totalement entaché si dans 3 ans et demi, vous laissez les clés de l'Élysée à Marine Le Pen?
D'abord, les ambitions que vous prêtez aux responsables politiques évoquées ne sont pas une nouveauté. Il m'a semblé que lors des 2 dernières campagnes présidentielles, intéressés se voyaient au même endroit. Je me félicite d'avoir pu empêcher cette opération. Et je ferai tout pour le continuer, parce que je pense que c'est bon pour le pays. Ensuite, je regarde autour de nous, dans toutes les démocraties européennes, y compris chez nos voisins allemands, où on pensait impossible le retour de l'extrême droite, elle est là. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir simplement avec nos yeux franco-français. Quelque chose se passe. Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une spécificité française. Nous étions à coup sûr la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement national, le Front national, naguère. On est en train d'y répondre. On améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant? Non. Deuxième élément... L'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes. Ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme... qu'il a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. Parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça ne désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, là les gens se disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc il faut aller au réel sur ce qu'ils proposent. Et ça, c'est notre responsabilité collective, ce n'est pas que la mienne seule. Mais tant qu'on continuera à avoir un discours politique qui parfois est déréalisé, c'est pas populaire de faire une réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais si on continue à aller voir les gens et qu'on trouve que c'est formidable et que c'est une réponse politique, de leur dire, on va continuer de vous aider, on va vous remettre la retraite à 60 ans et tout va bien se passer, ou à 62 ans maintenant. Puis la deuxième chose, c'est le parti du transformisme. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans et demi, t'es pour sortir de l'Europe et de l'euro. Et maintenant, il est pour y rester, mais pour ne plus en respecter les traités, comme l'extrême gauche. Même programme. C'est le Frexit caché. C'est l'appauvrissement de la France aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous disent « Je suis plus trop sûr de vouloir sortir de l'euro et de l'Europe comme naguère. Mais enfin, nous, on ne respectera pas les traités. Avec nous, rassurez-vous. » Mais c'est quoi ? Vous pensez que vous connaissez, vous, des copropriétés où on continue à vous payer l'eau et le gaz, mais vous ne respectez rien ? C'est ça, leur programme. Ben, faut le dire. Faut se battre. Et dans un monde en bascule, comme je viens de l'évoquer, face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, vous pensez qu'une une France toute seule, dans une Europe affaiblie, c'est une bonne chose ? C'est ça, le programme du Rassemblement National. Mais si tout le monde s'habitue, en disant ils sont devenus sympathiques, en fait, ils disent plus des choses qui nous heurtent, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Moi, je vois le débat public, on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Mais enfin, ils sont contre ce que fait le gouvernement, ça a l'air sympa. Alors, là, à ce moment-là, on rentre dans une forme de zone de danger qu'on voit dans tous les pays européens, parce qu'on ne se bat plus pied à pied sur ce qui est la réalité de nos principes. C'est pour ça que moi, j'assume de continuer à présider au réel, avec un certain sens de l'idéal. Et de dire quand les gens ont un problème, on essaie de le résoudre, au concret, au réel. Qu'on essaie de tordre le cou au mensonge. Qu'on a besoin, en effet, d'une France plus forte et plus juste, mais qui s'appuie sur des réalités. D'une politique économique qui a des résultats parce qu'elle a un sens et une cohérence, que ne propose pas le Rassemblement National. D'une politique écologique qui a un sens et une cohérence parce qu'elle est compatible avec la création d'emplois. D'une politique d'ordre républicain, juste et ferme, et qui respecte nos traités et notre constitution. C'est tout l'inverse du Rassemblement National. Donc on va continuer de se battre, mais je vois partout en Europe celui-ci qui monte par une forme de fascination du désastre, mais par un affaiblissement du débat collectif, parce qu'on oublie tous de revenir au réel et à la réalité de leurs arguments. Et là, on va avoir un vrai débat européen. Je ne suis pas heureux de les voir en tête des sondages. Parce que moi, j'ai beaucoup fait pour qu'on soit plus fort, nous Français, en Europe, depuis 5 ans, et que notre Europe a beaucoup avancé. Mais rassurez-vous, l'Europe du Rassemblement National, ce n'est pas celle qui vous permettra d'avoir les vaccins. Or, je le rappelle, pendant la crise Covid, on a eu des vaccins dans notre pays parce qu'il y avait l'Europe. On a pu faire un plan de relance parce qu'il y avait l'Europe. On peut aujourd'hui peser face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a l'Europe. Parce qu'il y a une Europe qui porte nos valeurs, où on sait pousser nos projets et notre ambition, mais parce qu'elle est là. C'est l'inverse de ce que porte le Rassemblement National. Et au fond, le Rassemblement National est devenu le parti de la colère facile. Du « on n'a pas tout essayé » ça paraît sympathique. Ne nous habituons pas. Agissons. Faisons. Bousculons les choses et les habitudes pour montrer qu'en effet, ce bloc central qui rassemble les démocrates, les républicains, les écologistes qui croient dans l'Europe peut agir et changer les choses et le quotidien des gens. Ayons parfois l'honnêteté de dire quand ça marche, la lucidité de dire quand ça marche pas et avançons. C'est ça pour moi la bonne réponse. Je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure. Je me suis toujours battu comme ça, pas avec des leçons de morale, en regardant le pays tel qu'il est, en essayant de convaincre avec des arguments, des actions et du réel. C'est ça le meilleur moyen d'éviter les extrêmes. Et j'y crois.
Et si vous lui laissez la place,
mais je ne fais pas de politique fiction, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait en campagne, je ne vais pas en faire ici. Vous savez, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui s'énervaient sur 2027. Mais enfin, j'ai quand même compris aussi qu'il me restait 3 ans et demi à présider. Et fort des 6 ans et demi que je viens de vivre, il se passe beaucoup de choses en 3 ans et demi. Beaucoup de choses.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfour. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde ? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité ? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festiv'Ébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Vous êtes 167 000 en moyenne à regarder chaque jour Martinique Première, numéro 1 en audience cumulée. Merci de votre confiance.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
Allons, athlète de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous, l'élite sportive réunie. L'étendard tricolore est levé. L'étendard tricolore est levé. Entendez-vous dans vos écrans? Montez ces intenses émotions qui viennent jusque sur vos bras. Émouvoir vos fils, vos compagnes. Au jeu, citoyens. Formez vos supporters. Chantons. Chantons. Que l'histoire qui s'écrit grave nos mémoires à l'unisson.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
quand j'ai commencé à jouer dans les bars, c'est là que j'ai réalisé un peu...
Oh, pardon.
C'est quoi ce langage-là?
C'est bien dommage pour elle. Il n'y a pas d'avenir pour elle en français, qu'elle parle tout de suite en anglais.
Lisa, pourquoi ne pas avoir choisi de chanter en français?
Parler mal, c'est le titre d'un documentaire réalisé par deux artistes nés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada. Documentaire pour comprendre ce qu'est l'insécurité linguistique, sentiment partagé par un certain nombre de francophones de par le monde qui ont l'impression, et je dis bien l'impression, de ne pas parler assez bien français. Bonjour Bianca Richard.
Bonjour.
Vous êtes plutôt une femme de théâtre, mais vous êtes transformée en reporter, sociologue pour les besoins de ce film. Vous vouliez comprendre quoi?
Dans le fond, moi et Gabriel, on voulait comprendre c'est quoi ce sentiment-là, un peu bizarre, un peu malaisant qu'on a par rapport à notre façon de parler. On parle surtout du sud-est du Nouveau-Brunswick, mais on parle aussi de la francophonie au complet.
Comment vous parliez, c'est-à-dire? Comme moi?
Comment on parlait?
Oui.
ici au sud-est du Nouveau-Brunswick, on en a une certaine façon de parler qu'on nomme le chiac, mais on découvre que le chiac, ça prend toutes sortes de formes, puis on découvre aussi que il y a toutes sortes de façons de parler le français. Je pense que le problème qu'on voulait aborder ou rechercher, c'était... Pourquoi on a l'impression que notre façon de parler est moins bonne que, mettons, la vôtre?
Donc, c'est une enquête à la fois sociologique et psychanalytique.
Oui.
Alors, avec vous, Gabriel Robichaud, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous aussi, vous êtes artiste, mais aussi acteur, écrivain, poète et fervent francophone. Francophone dans un univers, il faut le préciser, qui est profondément bilingue, parce que le Nouveau-Brunswick ne parle pas à 100% français.
Non, mais c'est-à-dire le Canada est un pays officiellement bilingue au niveau légal. Le Nouveau-Brunswick est la seule des 10 provinces canadiennes officiellement bilingue aussi. 30% à peu près de la population francophone au Nouveau-Brunswick est francophone de langue maternelle. Et tout dépendant d'où on se situe dans ce territoire dont la diagonale fait à peu près 500 km et le nord-sud 300 km.
Mais alors du coup, vous êtes minoritaire ou majoritaire?
On est minoritaire, mais au niveau de la loi, on est considéré comme égalitaire. Au niveau de la démographie, on est minoritaire dans la région où on est. Et il y a un peu plus d'anglophones que de francophones.
Et vous ressentez aussi ce sentiment d'insécurité linguistique, j'ai envie de dire ce complexe?
Oui, mais en fait, l'insécurité linguistique, c'est un phénomène qui a pris vie au niveau de la science il y a à peu près une soixantaine d'années à New York. Donc, c'est vraiment un phénomène social. C'est comment est-ce qu'une langue se construit? Généralement, c'est une relation de pouvoir qui est orchestrée au niveau des différents registres de langues qui sont parlées et qui sont associés à une perception de légitimité ou d'illégitimité. Donc, oui, certainement, de mon côté, je l'ai vécu, je le vis encore avec le spectre de l'insécurité linguistique est vaste. C'est-à-dire, la manifestation la plus violente, c'est le silence auto-infligé d'une personne qui se sent pas la légitimité de prendre la parole dans sa langue maternelle. Mais il peut y avoir également de l'hypocorrection. Donc, on s'exprime, on va parler notre manière stigmatisée de parler la langue et à défaut de ne peut-être pas être compris par notre interlocuteur, on se réclamera d'une fierté puis on parlera cette façon-là stigmatisée qui peut-être à outrance. De la même manière qu'on peut faire également de l'hypercorrection, donc dans l'idée de parler mieux, on va se mettre à faire des erreurs qu'on ne ferait pas habituellement parce que pour épater la galerie, on va essayer de maîtriser un niveau ou un registre qu'on ne maîtrise pas.
Gabriel Robichaud, avec Bianca Richard, vous vivez tous les deux à Moncton. Nous sommes d'ailleurs en duplex des studios de Radio-Canada. Donc Moncton, c'est pas tout à fait le Québec, c'est le Nouveau-Brunswick. Est-ce que le parler français y est quand même très différent? Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on se parle très naturellement, enfin qu'on parle la même langue exactement.
C'est là aussi où l'insécurité linguistique a quelque chose de pernicieux, c'est-à-dire que par moments, c'est même une question de perception ou d'auto-perception. Le discours sur le Nouveau-Brunswick, sur le sud-est du Nouveau-Brunswick, sur le Shiak, la région dont on est issu, était très problématique. C'est souvent la région qui est pointée du doigt. C'est souvent la région où on parle... En fait, ce titre « parler mal », c'est parce que Bianca et moi, on a grandi en se faisant dire que les gens d'où on venait parlaient mal, que les gens d'où on venait, en contexte minoritaire, étaient les premiers voués à l'assimilation vers l'anglais. Donc, il y a certainement toutes sortes de différences, mais comme si je me situe en France ou même à Paris, le parler banlieusard, le verlan, si je me retrouve en Provence, si je me retrouve dans le sud, il y a énormément de variations. Puis c'est le propre d'une langue vivante. C'est ce qu'on a découvert aussi à travers notre recherche. Le propre d'une langue vivante, c'est que une langue vivante, ce n'est pas une langue qu'on enterre dans une norme et qu'on fige. C'est une langue qui évolue année après année, jour après jour, au fil des réalités auxquelles elle est confrontée au quotidien de par le monde.
Alors pour ce documentaire, vous avez rencontré de nombreux locuteurs, mais aussi des chercheurs, dont la sociolinguiste Anne-Marie Baudouin-Béguin.
Ça fait mal quand on se fait dire qu'on parle mal parce que la langue est associée à l'identité. On est notre langue maternelle. C'est avec cette langue maternelle-là qu'on s'est développé, qu'on développe notre intellect, qu'on développe notre capacité à réfléchir. On s'identifie à cette langue-là dans la mesure où nos proches parlent cette langue-là. On a des connivences, on a de l'intimité avec nos proches dans cette langue-là. Et là, tout à coup, on se fait dire que notre langue n'est pas bonne. Des fois, j'essaie d'imaginer ça objectivement. Une personne qui se fait dire que sa langue maternelle n'est pas bonne. T'es pas bon dans ta langue maternelle. Mais il me reste quoi? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est ça l'idée. C'est pour ça que ça fait si mal.
Bianca Richard, Gabriel Robichaud, est-ce que vous avez l'impression que cette douleur infligée du fait de mal parler, elle est partagée par l'ensemble des francophones dans tous les continents confondus, sur tous les continents confondus?
C'est un petit peu ça qu'on découvre à travers ce projet-là. C'est même si nous autres, on parle de notre réalité dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on peut se sentir un petit peu loin de la francophonie, surtout au Canada, on est quand même éloigné, les communautés francophones. Puis, ouais, c'est ça qu'on découvre, que c'est un sentiment qui est vraiment présent, surtout dans la francophonie. Puis, on essaye un petit peu d'ouvrir cette discussion-là. Puis, honnêtement, tout de suite, ça serait mentir que de dire que je ne suis pas en train de vivre de l'insécurité linguistique, juste du fait que je vous parle, vous venez de la France. Dans ma tête, votre français est meilleur que le mien. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui joue dans la tête, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça dans la francophonie.
Bianca Richard, Gabriel Robichaud, vous allez nous raconter votre enquête qui va des bancs des écoles de Moncton au couloir de l'Académie française. Mais je vous propose un détour à quelques miles de chez vous ailleurs. Ailleurs, à Dallas, au Texas, avec Emeline Colson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes directrice de l'Alliance française de Dallas et comme des milliers de lieux en France, vous participez aux 8e nuits de la lecture. Mais alors, compte tenu du contexte, vous proposez une nuit plurilingue, c'est-à-dire anglais-français?
Et espagnol, puisque au Texas, 40% de la population est hispanophone, notamment du Mexique, vu la proximité géographique et la proximité de la frontière.
Le multilinguisme permet l'accès au français?
Alors oui, il y a d'ailleurs des initiatives qui sont menées, notamment par le consulat, avec des partenaires éducatifs ici au Texas, le consulat d'Houston, parce que, par exemple, pour la communauté hispanophone, c'est plus facile de comprendre et d'apprendre le français. Donc ça permet de les valoriser aussi pour l'apprentissage des langues et pour le marché du travail. Et puis, pour les Américains, il y a aussi une forte francophilie au Texas.
Quel est le public de votre alliance à Dallas, Texas?
Alors, c'est un public assez vaste. On a d'un côté donc le public français et francophone qui assiste à nos événements culturels. Donc il y a environ 4000 Français qui sont à Dallas. Et puis il y a une forte communauté congolaise et camerounaise. Ça, c'est d'un côté notre public, mais pour les cours de français, par exemple, et d'autres événements culturels, parce que notre mission, c'est de faire un pont entre la francophonie et les Amériques, ce sont surtout des Américains francophiles qui aiment la culture française, qui aiment voyager. La francophiliothèque s'associe parce que il faut savoir que le drapeau français a flotté sur le Texas et puis que lorsque le Texas a brièvement été indépendant au 19e siècle, la France a offert une ambassade au Texas à Paris.
Donc un fort sentiment de francophilie. Est-ce que vous pouvez, Emeline Colson, partager quelques noms d'auteurs qui seront lus pour cette nuit de la lecture, puisque la francophilie existe, même avec une pointe d'accent.
Même avec une pointe d'accent. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des auteurs francophones et aussi recouper avec des auteurs mexicains, des auteurs sud-américains et des auteurs américains. Mais pour, voilà, on va proposer à nos apprenants de lire des textes pour les valoriser en anglais, en français et en espagnol. Mais aussi, l'idée, c'est de rassembler d'autres communautés. C'est pour ça que nous nous associons avec une maison d'édition qui publie énormément d'auteurs français en langue anglaise. Il faut savoir, juste pour la parenthèse, qu'aux États-Unis, seulement 3% de la littérature accessible est de la littérature étrangère. Donc l'idée, c'est de promouvoir aussi différents auteurs. Donc par exemple, il y aura des lectures de Roland Barthes, le fragment du discours amoureux en différentes langues. On aura aussi du Proust, Roberto Bolaño, qui parle beaucoup du corps des femmes et des féminicides dans son livre 2066. On a Virginia Woolf avec Orlando, Marie Dariussec bien sûr et Truisme. Et puis si on parle de poésie, Éluard a beaucoup écrit sur le corps et l'amour. Voilà, donc on aura différents textes, Delphine de Vigan aussi, Annie Ernaux et bien d'autres.
Oui, parce qu'il faut rappeler que le thème de cette nuit de la lecture, c'est le corps. Merci beaucoup Emeline Colson, la nuit de la lecture à Dallas, 19 Merci. Janvier.
Ce moment, regarde, j'ai ramé, efface ton passé, et pas les séquelles parce qu'il faut que ça guérisse. Le temps, c'est de l'argent, et surtout le dimanche. Je tente ma chance, une semaine de vacances, sous les palmiers, regarde, c'est lointain. Le tout sans demain, à grand coup de patin. C'était mon cerveau, souvenir de diaspo, à jouer dans le cerveau, en forme de bateau. On réécrit l'histoire, remplit nos tiroirs de nouvelles mémoires. Allez, on repart, tu peins sur la planche, nous deux en balance. On se fait confiance, c'est plein de gaillance. On navigue dans le sens, le vent sur sa lance, on croit en la chance. Je suis ton avance. Archivé.
C'est l'espoir qui se fait désirer, dans une file d'attente dévoilée. C'est le vent dans les voiles dirigées vers une terre ferme, sans terre. C'est l'espoir qui se fait désirer, dans une file d'attente dévoilée. C'est le vent dans les voiles dirigées vers une terre ferme, sans les voiles dirigées vers une terre ferme sans
bal tout kote. An ale, non kwen pou n'gade tan. Mbaga kite ou, e sa libre.
Diaspo en diapo, Wally sur RFI, un artiste haïtien qui vit à Montréal et sort son premier EP, Saponification. Aujourd'hui, dans De Vive Voix, avec Bianca Richard et Gabriel Robichaud, on parle mal du nom de leur documentaire sur l'insécurité linguistique, ou du moins, on essaye de comprendre pourquoi certains locuteurs ont ce sentiment de parler mal. Est-ce qu'il s'agit d'un complexe lié à une norme dominante? C'est ce que vous nous disiez au tout début de l'émission. Et à un centre. Mais ce serait quoi cette norme dominante, Gabriel, Bianca?
Ben, c'est sûr que la norme telle qu'elle a été prescrite, n'en déplaise à l'Académie française qui ne se dit pas prescriptive, essentiellement, mais m'apparaît parisienne. C'est-à-dire que même l'origine du français comme langue officielle de la France, c'est le fait que le roi François, c'était sa langue à lui, et c'est cette langue-là dont il a voulu se servir pour qu'elle devienne la langue de l'État. Donc déjà à la base, l'origine même de la langue, c'est ça. Et la langue ensuite de ça, c'est construite de toutes sortes de façons à partir de ce moment-là. Donc le centre, par la force des choses, ben, c'est Paris. Et comme aussi c'est la métropole, c'est un endroit de pouvoir aussi, c'est un endroit de diffusion extraordinaire. Je pense que c'est à partir de là que cette norme s'est créée. Au Canada, à partir de 1840 à peu près, il y a eu une volonté également de se calquer sur ce modèle-là, le modèle parisien, pour continuer de développer le français tel qu'il se parlait ici. Et donc, depuis cette époque-là, ça devient cette espèce d'idée de modèle d'excellence. Après, ben, y a quand même une nuance que je souhaite apporter. On ne dit pas que la norme n'a pas de raison d'être. On ne dit pas que la norme n'a pas une importance. Parler d'insécurité linguistique, ce n'est pas de dire n'importe qui peut parler comme elle ou elle veut à n'importe quel moment et qu'il n'y aura aucune conséquence qui découlera du fait de parler comme on le souhaite dans n'importe quel contexte. C'est pas du tout de cet ordre-là. Ceci dit, je pense qu'une conversation qui est importante d'y avoir, c'est d'être capable de questionner cette norme-là. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle cause? Qu'est-ce qu'elle cause au niveau de disparité sociale? À qui elle empêche d'avoir un accès légitime au pouvoir? Et dans cette idée de cette langue qui vient d'un pays qui parle d'égalité et de fraternité et de liberté aussi, ben, à quel... De la manière dont la langue est construite dans l'espace social, qu'est-ce qui empêche l'accès à des gens pour des raisons qui sont, somme toute, subjectives?
Alors, pour savoir qui dit la norme, assez logiquement, dans votre documentaire, vous êtes allé à l'Académie française qui est Contier à Paris, qui depuis 1635 dit le bon usage. Mais alors, vous avez quand même rencontré là le plus cool, le plus formidable et le plus inventif des académiciens français, en l'occurrence l'haïtien, Dany Laferrière.
C'est pas nous qui formons les mots. Et nous savons très bien d'où ça vient. Et c'est 80% dans le peuple. Il y a ce gros laboratoire, même pas, c'est une grosse chaudière, un bouillon de culture qui se fait et qui invente sans cesse des mots et qui les laisse tomber aussi. Il y a beaucoup de mots, par exemple, qui sont entrés dans le français et courants, et grâce à Antonine Maillet, parce qu'elle a écrit la Sagouine qui a eu un grand succès. Ce que l'on doit savoir, c'est que la langue française a besoin de tous les mots.
Tous les mots. Est-ce que cela vous a finalement consolé, Bianca Richard et Gabriel Robichaud? Est-ce que ça vous a rassuré au moins?
Je dirais que c'est une piste de solution pour peut-être pas se débarrasser mais de l'insécurité linguistique, mais de au moins l'apaiser un petit peu, c'est d'accepter sa propre variété de français. Puis de mon côté, c'est ce que je commence à faire. Ma langue maternelle, c'est le français, mais ma variété est peut-être pas celle-là de la norme perçue ou celle-là qui est la plus parlée ou la plus courante, mais elle a quand même le droit d'exister. Puis c'est un peu à travers ça que j'essaye de me consoler, moi. Fait que entendre Dany Laferrière prononcer ça ou dire ça, oui, c'est sûr que ça fait du bien parce que je veux pas. Il travaille à l'Académie française, puis pour nous autres, ben l'Académie française, c'est comme quelque chose de quand même mystérieux, mais quelque chose qui prend de la place dans l'imaginaire francophone. Fait que oui, c'est une sorte de consolation d'entendre ça.
Vous, ça vous console. Moi, ça me réjouit de vous entendre parce que je trouve qu'il n'y a de français qu'avec des accents au pluriel. Vous vouliez rajouter quelque chose, Gabriel Robichaud?
Ben en fait, je pense que ça va à peu près dans la même direction de ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que par le passé, on a souvent la maîtrise de la norme a souvent été perçue comme la manière d'assurer la vitalité et la vie d'une langue, depuis en tout cas 150 ans à peu près. Mais je pense que ce qu'on oublie, c'est que cette langue-là, en fait, c'est construite en s'adaptant constamment à toutes les réalités auxquelles elle était confrontée. Puis qu'elle multiplie les variétés, c'est pas forcément une tare. Je pense qu'au contraire, ça montre à quel point elle est vivante et qu'une langue qui se fige dans le temps et dans une époque et qui n'arrive pas à aller au-delà de cette époque-là, ben c'est une langue, j'ai l'impression, qui est appelée à mourir. Donc, c'est sûr que d'entendre Dany qui dit ça, c'est super intéressant. Ceci dit, c'est certainement pas le discours perçu comme conventionnel de l'Académie, celui qu'il tient, mais de savoir qu'il est là, qu'il réfléchit de cette manière-là.
Il est quand même pas tout à fait le seul à penser cela. Barbara Cassin, par exemple, dit absolument la même chose. Et puis, j'ai envie de vous rassurer encore un peu plus. L'Académie française n'est pas si importante que ça dans le paysage français pour les locuteurs français qui vivent dans l'Hexagone. Est-ce que vous ne mythifiez pas cette institution?
100%, oui. Je pense qu'on, de mon côté, je la comprends mal. Je sais qu'elle existe, puis c'est un petit peu là, on le dit dans le documentaire, c'est un petit peu l'air de comme une tour qui nous regarde de loin, puis on le comprend pas trop, mais de démystifier ça aussi pour nous autres, c'est quelque chose de quand même important parce que ça a fait partie d'un discours sur la francophonie.
Je pense aussi qu'il y a quelque chose de la perception qu'elle a ici, le rôle qu'on nous enseigne qu'elle peut avoir ici aussi, qui n'appartient pas forcément à l'Académie, ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Donc la perception, vous parlez du mythe, certainement il y a quelque chose du mythe qui va jouer sur les consciences et sur l'inconscient, qui ne leur appartient pas. Maintenant, sachant que cet inconscient-là existe, il y a certainement lieu de réfléchir à comment le démythifier ou réajuster le tir. Puis tout dépendant des discours qu'on peut entendre ici ou ceux qui traversent l'océan. Vous parliez de Mme Cassin tout à l'heure. C'est pas forcément un discours qu'on va forcément entendre ici. Donc, les réactions qu'on entend de d'autres membres de l'Académie sont pas forcément du même ordre. Ceci dit, je pense aussi que dans n'importe quel... Le piège de n'importe quel centre versus ses périphéries, c'est lorsqu'on on parle du bon usage. Ben, c'est le bon usage de qui? C'est le bon usage de où? C'est le bon usage jusqu'à où? Et à partir de quel moment un nouveau mot devient légitime? À partir de quel moment un emprunt à une autre langue devient légitime, devient suffisamment important pour qu'on le justifie ou qu'on le regarde de loin ou qu'on le regarde de haut? Puis ça, cette espèce de regard-là ou de piège de regard-là, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il est tout à fait réglé, mais de l'amener dans la conversation, de le soulever, de multiplier les occasions de le soulever, je pense qu'il y a qu'une richesse à découler de ça par la suite.
En tout cas, ce qui semble important à mes yeux, c'est de penser que le français est votre langue maternelle, donc vous en avez toute liberté pour le parler et en user comme bon vous semble et selon la météorologie linguistique de la zone dans laquelle vous parlez. Si je compare à l'Afrique francophone, il y a actuellement une tendance lourde vers une réappropriation des langues nationales contre ou à côté du français d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi le cas au Québec ou au Nouveau-Brunswick que se réapproprier le français, qui est donc votre langue nationale maternelle, quelles que soient ses variantes et sans complexe, où vous nourrissez toujours cette insécurité linguistique?
C'est sûr, c'est difficile au sens que je connais pas nécessairement bien en détail chacune des situations. Ce que je peux dire, c'est que il y a certainement une multiplication des volontés d'affirmation, mais ça ne se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que pour chaque pas de l'avant, il peut y avoir des pas de l'arrière. Ça ne se fait pas sans heurts. Puis, entre autres, à cause de ce discours-là sur la survie ou la vitalité de la langue qui est associée non pas à la multiplication de ses variantes, mais à l'unification de la chose, qui, j'ai l'impression, est un potentiel piège, en fait, qui mène peut-être plus vers une assimilation du français vers d'autres langues que l'acceptation, en fait, qui permettrait de multiplier les façons de parler la langue.
Alors, dans votre film, vous rencontrez une prof d'Ottawa, Amélie Mercier, et ce qu'elle dit est assez bouleversant parce qu'en fait, elle parle de trahison.
C'est crève-cœur parce que je me sens comme si parce que je perds mon accent, je perds aussi tout le sacrifice qu'ont fait mes parents et mes grands-parents. Puis c'est grâce à eux si on est là puis on parle français. De perdre ça, c'est de perdre aussi leur legs, leur héritage. Tous les efforts qu'ils ont fait pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Puis là, moi, je me vire de bord, puis j'ai l'accent ottavien, puis je sais pas. Est-ce que j'ai un regret de pas être retournée dans le Nord, puis de faire vivre cet accent-là, puis cette réalité-là à mes enfants? Oui.
Je n'ai pas besoin de gros feux d'artifice pour sentir que je suis vivante. Dehors, mon amant fabrique une lumière qui imprègne nos vêtements. Quand les arbres dansent, qui se pavanent devant mon balcon. Ils ramènent des joies immenses, déguisées d'une nostalgie étrange. Ça me rappelle que tout est éphémère.
Caroline Savoie, chanteuse acadienne qui avait participé à The Voice il y a quelques années, à qui on demandait « Mais est-ce que vous parlez français ?» Elle répondait « Oui, je suis francophone, je suis acadienne. » Et Amélie Mercier qui parle de trahison de la langue de ses ancêtres et qui pleure. Comment voyez-vous l'évolution de la situation du français sur le continent nord-américain, qu'il soit finalement bien ou mal parlé, Bianca Richard, Gabriel Robichaud?
Ben, pour ma part, je fais partie des optimistes et des enthousiastes. Je pense qu'il y a un certain discours alarmiste et défaitiste qui arrive par moment. C'est sûr qu'il y a une perte du poids démographique qui peut être perçue comme inquiétante, mais qui vient toujours avec une augmentation du nombre de locuteurs. Donc, c'est toujours un enjeu de ce côté-là. Je pense que la situation du français en Amérique du Nord est très particulière dans le monde parce que c'est à la fois une langue qui a été coloniale, mais c'est également une langue qui par la suite a été colonisée. Puis ce double rapport-là, à ma connaissance, il est assez unique comme situation langagière, ce qui fait aussi que lorsque je rencontre d'autres francophones de l'international, puis j'inclus la France dans la francophonie, je me rends compte que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais pour ma part, tant qu'on continue de créer dans cette langue-là, elle va continuer de vivre et c'est peut-être un de nos chevals de bataille, puis peut-être une des meilleures façons pour nous d'adresser l'insécurité linguistique, c'est de faire de cette langue-là une langue vivante en faisant une langue d'imaginaire et de création.
Pour juste bouncer sur Gabriel, il y a comme une image que j'aime, que je fais dans ma tête de la langue comme une plante, comme un être vivant qui va s'adapter à n'importe quel climat pour la survie. Fait que notre façon de parler, notre langue, ben c'est comme une plante qui s'est adaptée à travers les années, puis il faut la nourrir, il faut l'aimer, puis il faut la traiter avec gentillesse aussi, puis l'accepter pour qu'elle continue de vivre puis de grandir. Fait que j'utilise cette image-là pour m'apaiser souvent.
Belle image, en effet. Merci beaucoup, Bianca Richard. Merci, Gabriel Robichaud. Et vraiment, je crois qu'il faut se sentir libre. Hein. Je vous le dis à vous, mais je le dis à tous les auditeurs qui parlent plus ou moins bien français, comme moi, j'ai un accent du Sud. Parlez mal est donc le titre de votre documentaire que l'on peut voir sur différentes plateformes, dont Ici Tout, TOU, seulement TV. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et merci à Radio-Canada et à Stéphane Basquet pour la prise de son. À demain.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Ça a été une tempête qui a défilé sous nos yeux, ou plutôt plusieurs tempêtes.
Des allégations de harcèlement et d'agression sexuelle fusent de toutes parts sur les réseaux sociaux.
Recommander ce livre qui dénonce la censure est en partie ce qui a valu au premier ministre du Québec d'être lui-même censuré.
Des personnes ont été montrées du doigt et certaines sont même disparues de l'espace public.
Marie-Pierre Morin suspend toutes ses activités.
Le chanteur Kevin Parent,
Bernard Adamus.
Pierre Lacroix suspend ses activités.
Pour certains, c'est une façon de s'assurer que les gens soient tenus responsables de leurs paroles et de leurs actions.
Les personnes qui nous écoutent, c'est notre dernier recours en ce moment.
Pour d'autres, c'est un jeu dangereux pour la démocratie et la liberté d'expression.
Personnellement, je trouve ça vraiment consternant.
Cette professeure suspendue par l'Université d'Ottawa pour avoir prononcé le mot en haine.
C'est un dérapage important.
Un phénomène est de plus en plus nommé en trame de fond.
Le débat sur la cancel culture.
I've been canceled.
Cancel culture.
Right. I've been canceled before they had cancel culture.
Qu'est-ce que la cancel culture? La cancel culture, c'est quoi? Et est-ce qu'on devrait la bannir? Quels sont les effets sur les individus et sur notre façon d'être en société? Réponse dans nos prochaines émissions 2023-2024 avec des professeurs et invités. Une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI et France 24. Popourri Show, 36 ans déjà. Merci de votre fidélité.
France 24 sur iPhone, une application gratuite et simple à installer. Avec France 24, devenez observateur mobile et envoyez directement vos photos et vos vidéos à notre rédaction. Suivez en temps réel l'actualité du lieu où vous êtes. France 24 sur iPhone, plus de contenus originaux, plus de programmes à la demande. L'actualité accessible partout, à tout moment et en trois langues. France 24 sur iPhone, devenez acteur de l'actualité.
En 2024, CUTFM, en partenariat avec RFI France 24 et ses partenaires communautaires francophones et créoles, vous fait découvrir les francophonies dans toute leur diversité. Pour rien au monde, ne manquez pas nos grands rendez-vous. Festival Jeunesse Ciné Franco, Festival Théâtre Communauté des Noirs avec la compagnie Théâtre Créole en février et mars. Le mois de l'histoire des Noirs en février avec Sophie Franc. Le mois de la francophonie en mars. Le mois de l'histoire autochtone, le mois des fiertés au mois de juin. La fête nationale française le 14 juillet. Festival Compazouk Efkazo au mois de juillet août. Le mois du Créole avec Kepka en octobre. Le Festival Ciné Franco grand public en novembre. Les nouveautés littéraires avec les éditions Prise de Parole. Les nouvelles des Français de l'étranger avec l'association Français du Monde Toronto. Popourri Show, 37 ans déjà. Chaque dimanche de 11h à 13h sur www.cut.fm en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Concerts, spectacles, des cartes cadeaux, Des places VIP, des émissions spéciales, des conférences à Ducréfo, les visites guidées de la Société d'Histoire de Toronto et les bons plans de nos partenaires de la région et du monde francophone. Abonnez-vous immédiatement à nos bulletins d'information pour ne rien manquer. Devenez membre, chroniqueur ou partenaire de la seule émission en langue française sur la Radio Campus de l'Université de Toronto. Vous avez une thématique à nous proposer, une nouvelle à nous partager? Alors faites vite, écrivez-nous à popourri@cut.fm ou visitez tout simplement notre site web popourrishow.com. 2024, c'est l'année des voix, des sans-voix sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Dimanche 21 janvier 2024. Bonjour et bienvenue à votre magazine de la francophonie. Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Sur le campus de l'Université de Toronto, sur la bande 89,5 FM. Et en ligne sur www.cut.fm. Ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Rogers Cable 946. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair, qui vous accompagne depuis plus de 37 ans. Vous réécoutez nos émissions tout au long de l'année. Une seule adresse, où que vous soyez dans le monde, popourrishow.com. Et l'émission d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs et la Société d'Histoire de Toronto. Et oui, c'était l'anniversaire de mon idole cette semaine, Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 à Paris. Auteure, compositrice, interprète, actrice française. C'est ma jeunesse, quoi. Mes belles années 60. Nostalgie, nostalgie oblige, celle qui est condamnée par la maladie. Courage et bon anniversaire, Françoise Hardy.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Avec nous sur RFI, vous avez tout de suite rendez-vous avec le journal d'Haïti et des Amériques. C'est jusqu'à 13h30 temps universel et c'est avec Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Inéluctable et déprimant, voilà comment le New York Times qualifie la victoire de Donald Trump hier. Très confortable victoire à la première primaire du Parti républicain. Vous entendrez sa réaction dans un instant et nous appellerons également notre envoyé spécial dans l'État de l'Iowa, le premier donc à voter pour désigner les candidats à la présidentielle. Comme chaque mardi, nous serons en ligne avec notre confrère d'Alter Press en Haïti. Nous parlerons notamment des mobilisations d'hier contre le Premier ministre. Et puis l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, nous évoquerons avec vous une procédure judiciaire annulée en Martinique.
Oui, une affaire de corruption et de favoritisme présumé, affaire dans laquelle les enquêteurs avaient saisi un échange couvert par le secret professionnel, ce que le tribunal correctionnel de Fort-de-France a sanctionné.
À tout à l'heure.
RFI, The World's Voices.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va continuer à lire la presse du continent en Haïti. On retrouve notre rendez-vous du mardi avec Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
À la une de votre site aujourd'hui, il y a ces manifestations, ces blocages pour réclamer la démission du Premier ministre.
C'est la deuxième fois en trois jours que des centaines de personnes ont gagné les rues, particulièrement dans la principale ville du sud-ouest d'Haïti, à Jérémie, pour clamer leur ras-le-bol de la gestion du pays par Ariel Henry, tout comme pour exprimer leur rejet de l'influence américaine, particulièrement sur ce qui se passe en Haïti. Parmi les manifestants, on a noté la présence de partisans de l'ancien officier de police Guy Philippe, qui a expurgé une peine de 6 ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent en provenance du trafic de la drogue, lui qui, depuis sa déportation en Haïti en novembre dernier, tente de relayer la grogne populaire. Trop de sang a coulé, non aux décisions américaines imposées à Haïti. Trop de sang donc a coulé, c'est ce qu'on a pu lire sur les pancartes. Des barricades ont été érigées et les activités en grande partie paralysées. Atmosphère de tension notée aussi dans d'autres villes et à Port-au-Prince hier.
Voilà, l'insécurité qui pèse de plus en plus lourd sur le quotidien des Haïtiens. La situation des droits de l'homme a encore empiré au cours de l'année écoulée. C'est ce que nous apprend l'association RNDDH.
Catastrophique, c'est le qualificatif employé par Rosie Auguste, responsable de programme au RNDDH. Les droits à la sécurité, à la vie et à l'intégrité physique ont été violés durant toute l'année. Des violations plus nombreuses, plus graves et plus spectaculaires qu'au cours de l'année précédente. 1047 personnes assassinées, 10 massacres, entre 5 et 9 enlèvements par jour, 14 assauts de bandits armés contre différentes communautés dans la zone métropolitaine et dans l'Artibonite au nord, selon les données compilées par l'association. 43 policiers nationaux ont été assassinés et 2 autres portés disparus. Les appareils répressifs de l'État, à savoir la justice et la police, sont inopérants, regrette l'association.
Et le RNDDH s'inquiète en particulier pour les personnes déplacées, celles qui vivent dans des camps dans le département de l'Ouest.
Des personnes déplacées qui sont logées donc dans des camps où la vie est caractérisée par la promiscuité, l'insalubrité et l'absence de structure étatique, selon l'association. Des camps de déplacés répertoriés sont au nombre de 60. 45 d'entre eux sont occupés par des personnes qui s'y réfugient à cause de la violence des gangs, mais 15 de ces camps existent depuis le séisme du 12 janvier 2010, dont on vient de commémorer le 14e anniversaire.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Tous ces articles sont à lire sur votre site alterpress.org. Merci. Et on va continuer à lire la presse du continent. Christophe Paget, direction le Venezuela. Hier, c'était le discours à la nation du président Nicolas Maduro qui a annoncé pour l'occasion une augmentation des salaires.
En fait, il s'agit d'une augmentation des primes pour les employés du secteur public, explique El Nacional, qui passe de 30 à 60 dollars par mois. Le salaire minimum, lui, n'augmente pas pour la deuxième année consécutive. Ce manque d'ajustement du revenu minimum, rappelle Efecto Cocuyo, a provoqué pendant toute l'année 2023 des manifestations de la part de milliers de travailleurs, de fonctionnaires, d'enseignants, de syndicats, de retraités dans tout le pays. Et 2024 a commencé par des manifestations d'enseignants. Pendant son discours, qui a duré plus de 6 heures, Nicolas Maduro a fait d'autres annonces. C'est à la une de l'édition internet de Ultimas Noticias, proche du pouvoir. Le président vénézuélien a entre autres affirmé avoir échappé l'année dernière à 4 tentatives d'assassinat organisées par la droite vénézuélienne avec la complicité d'organismes américains depuis la Colombie et Miami.
Le premier voyage à l'étranger du président argentin, l'économiste libertarien Javier Milei, c'est au forum de Davos en Suisse. Il est attendu ce soir.
Il prononcera demain un discours de 25 minutes intitulé « La liberté, clé de la prospérité », annonce Perfil. Discours qu'il tiendra, précise Clarine, devant les chefs d'État et de gouvernement des principales puissances mondiales et 800 entrepreneurs de haut niveau. Davos est un rendez-vous important pour Javier Milei, explique Perfil, parce que le président veut y faire la promotion de l'agenda international du gouvernement argentin et chercher des investissements. Alberto Fernandez, le dernier président argentin à avoir parlé à Davos, avait rejeté l'endettement toxique et irresponsable de son pays avec le FMI. Après 2 ans d'absence, l'Argentine est donc de retour avec un Javier Milei qui, lui, a rendez-vous demain avec la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, annonce Parina Dossé.
Christophe Paget pour la revue de presse à retrouver sur Internet, bien sûr, www.rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand. En Martinique, le tribunal correctionnel a annulé hier une procédure viciée par l'exploitation d'une correspondance entre un avocat et son client.
Oui, il s'agit d'une affaire de corruption et de favoritisme présumé dans des marchés publics, suite à la plainte il y a 6 ans déjà d'un chef d'entreprise. Alors les enquêteurs avaient saisi un échange couvert par le secret professionnel, ce que le tribunal a sanctionné, à la grande satisfaction de Philippe Edmond Mariette, avocat de l'un des prévenus.
Il faut se réjouir de cette décision qui conforte le fait que, entre un client et son avocat, c'est comme une confession religieuse. Personne n'a vocation à prendre les supports qui ont été établis à l'occasion pour les verser dans une procédure pénale ou dans une procédure civile, quelle qu'elle soit. Le secret professionnel de l'avocat doit être préservé en tout lieu et en tout temps. C'est sans doute au bénéfice de tous ceux qui étaient poursuivis, mais il faut se réjouir d'une chose. C'est que ces textes-là ne sont pas mis pour protéger des gens qui seraient des délinquants. Ils sont pris pour protéger l'honnête homme qui, demain, peut être caution ou sujet à une procédure judiciaire et se retrouver embarqué parce qu'on n'aurait pas respecté les règles de forme. Un juriste allemand, Hering, disait « La forme, c'est la sœur jumelle de la liberté ».
Direction la Guadeloupe avec un bonnet d'âne pour l'aéroport Paul Caraïbes, numéro 2 du palmarès entre guillemets des aéroports français ayant enregistré le plus de retard durant les fêtes de fin d'année. Peggy Robert.
Un vol sur 4 a décollé en retard à Noël à Pointe-à-Pitre. Selon Flightright, 20 vols sur 76 sont partis avec au moins 15 minutes de retard de l'aéroport Paul Caraïbes entre le 22 décembre 2023, premier jour des vacances de Noël, et le vendredi 5 janvier 2024. Cela représente précisément 26,32% des vols. Des chiffres qui placent Paul Caraïbes au deuxième rang des aéroports français avec le plus de vols retardés. Au premier rang, loin de devant l'aéroport de Grenoble, 45,24% de vols en retard sur la même période. En bas du tableau, qu'il faudrait en fait lire à l'envers, figurent les aéroports les plus ponctuels. On y trouve les 2 aéroports Corse, Ajaccio et Bastia. À noter, aucun autre aéroport d'outre-mer, mis à part la Guadeloupe, ne figure parmi les 20 aéroports de ce classement. Pour Flightright, qui se présente comme le leader européen sur le marché des droits des passagers aériens, cette situation s'explique par la hausse du nombre de passagers à cette période de l'année, donc les fêtes de Noël, par le nombre de grèves dans l'aérien, les pénuries de personnel, la congestion du trafic aérien, il y a généralement plus de vols programmés à cette période, ou encore par les conditions météo.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10 temps universel. Et d'ici là, sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à Kepka et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. DJ Z, qui sont du fait? Oh yeah, yeah, yeah.
Si nous faisons celle m'ap senti m'pied pour moi relé ou frère. Si nous chasse haine, ap gen plus place pour l'amour en danken. Nous sene guine, nous consacre les gourmets. Mais fais l'entre nous, ça pas pitié nous en yen. Mais t'es maintenant pour construire sa jume. Nous doyons exemple. Ou petit nous demain. Ou c'est haïtien. Petit n'est guinéen. Ou c'est haïtien. Petit n'est guinéen. Nous mettons gay. Nous décotez que fait nous sentir supérieur. Des yon l'autre confrère. Baisser le prend poste par les Français. Force douce et l'union, c'est solide et on a l'autre. C'est l'homme au pays qui a fait nos patriotes. Pas quitter division, faire faible sentir au bifort. Mon saillot c'est poisson, force nous qu'à antidote.
Manque poids, remplacer le palalo, nous c'est petit mi à pas qu'on go sèche, manger cuit, pas gagner mettre paysan, pas qu'on chiche, nous c'est bovin qui pompe sans beau choix, colonisateur pompe ça, nous c'est quoi de quoi, quoi symbole, haïtien pas n'a coué les coué. Nous c'est tête citadelle, pas pour te bourrer. Nous c'est peuple qui rebelle, pas pour te fourrer. Sans cette nous immortel, on fait yo souris. Continuez mes colons, n'a fait tes courir. Nous c'est beau sale qui te colle beau soyo. Nous c'est vocal qui crève tes pans yo. Nous c'est colonne vertébrale l'univers, black. Nous pas de jambes pour l'envers yo.
Chez les miens, partager, connaissance à frère nous yo, en nous, déposer ça nous yo, tout yo vio, cagon à venir de mes.
Préférés auront besoin de vos votes. Les trophées Énergie Antilles. J-4, soyez prêts.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM. Celebrating 35 years as the sound of your city.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Tout au long du mois de février, Popourichou, en partenariat avec la Compagnie Créole à Montréal, présente la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs. Une belle occasion pour découvrir les artistes et la richesse de la diaspora africaine au Canada et les tribus pour lesquelles la culture africaine continue de rester au cœur du mode de vie. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, avec Festival Théâtre à Communauté Noire et Popourichou sur CUT 89,5 FM. Tous les détails sur popourichou.com. Bon mois de l'histoire des Noirs avec la compagnie Théâtre à Créole et CUT FM.
Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre? Allez! Je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non! J'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans. Suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend? Et dès que sonne la récré, je me fais insulter. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je continue de grandir, aujourd'hui j'ai 9 ans. Qu'est-ce qu'on va m'offrir, y aura combien de gens? Mais le soir de ma fête, en fait, j'avais pas de fête. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Ça y est, je suis en 6e, j'ai enfin 11 ans. Je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans. J'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents? On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans. J'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens. Pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant? Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans. Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman? Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans. Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps? Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à part si je me mens. Oh non, je voulais juste vivre mon rêve. Genre en soirée techno, c'est bon j'ai 20 ans. Je me drogue un peu trop, je profite de l'instant. Putain tout me dépasse, commencent les crises d'angoisse. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante ta marinière, je vais mieux j'ai 21 ans. À la fin des concerts, le public m'attend. Mais quand je rentre en taxi, où sont passés mes amis d'avant? J'ai dû faire un mauvais rêve. J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans. Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voie vraiment. J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans. J'ai fait de la musique, y'a rien d'effrayant. La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants. J'ai dû faire un mauvais rêve. La vie me met en tasse du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et puis ça continue, j'ai toujours 25 ans. Mon papy me quitte une nuit et laisse derrière lui un grand blanc. Je comprenais pas la vie, je vais devoir comprendre la mort maintenant. J'ai dû faire un mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments. J'aurai un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère. Moi je veux juste vivre mon rêve. J'ai dû faire un mauvais 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 rêve.
Pour marquer les 50 ans des éditions Prise de Parole, 6 autrices franco-canadiennes nous présentent un recueil de poésie, Lieu-dit. Lieu-dit pérennise les questionnements d'une époque marquée par la crise climatique, les inégalités sociales et l'éclatement identitaire. Ceci n'est pas un bilan, c'est un jeu, un vœu, une réinvention, une invitation. Lieu-dit célèbre tout ce qui brûle dans le ventre des femmes quand elles écrivent. Prise de Parole a publié plus de 450 livres au fil des ans. Son tout dernier lieu-dit est né de la plume de Myriam Cusson, Yolande Jiménez, Suzanne Kemeneng, André Lasselle, Charlotte Lorage et Guylaine Tousignan. Lieu-dit est disponible sur prisedeparole.ca. Les éditions Prise de Parole, 50 ans, engagées à soutenir les auteurs, les autrices francophones, autochtones du Canada.
France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Trois événements en librairie aujourd'hui, avec le retour d'une célèbre auteure suisse, le roman attendu d'un écrivain algérien prestigieux, et le livre inattendu, celui-ci d'un prix Nobel. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est un roman de science-fiction qui va beaucoup faire parler de lui en cette rentrée littéraire de janvier. L'écrivain algérien Boualem Sansal raconte la fin de notre monde avec le sauvetage d'une partie de la population mondiale et il attaque une nouvelle fois l'inhumanité des religions. Nous irons en Amérique latine ou presque avec le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Le Clézio. Il raconte son identité nomade dans un petit livre de récits confidences, entretien au cœur de Paris à la maison de l'Amérique latine. Et puis la Suisse Pascal Kramer vous racontera une histoire de famille avec un oncle très séducteur au centre d'une famille déconstruite par cet homme plutôt inconsistant. On vous emmène à présent dans un lieu somptueux qui invite au voyage. La Maison de l'Amérique latine, installée à Paris dans le quartier latin, fait vivre la culture latino-américaine depuis l'après-guerre. Nous y avons emmené le prix Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Nous sommes à la Maison de l'Amérique latine au cœur de Saint-Germain-des-Prés dans un magnifique hôtel particulier, typiquement parisien, fondé en 1946 par le général de Gaulle qui voulait ce lieu en guise de reconnaissance pour le soutien de l'Amérique latine à la libération de la France. Aujourd'hui, cette maison fait vivre les cultures latino-américaines avec des expositions et des événements. Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour Emmanuel.
Un nouveau voyage ensemble?
Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir.
On va s'installer dans un petit salon qu'on nous a prêté, va-t-on dire, face à un magnifique parc de l'autre côté du boulevard Saint-Germain.
Je suis très ému de venir avec vous parce que c'est la première fois que j'entre dans cet endroit. J'ai eu des invitations assez souvent à venir, mais comme en général, ça s'accompagne de foules et de cocktails, choses comme ça, donc je ne venais pas. Mais là, grâce à vous, je visite ça dans des conditions tout à fait idéales.
Eh oui, parce que vous avez un lien tout particulier avec l'Amérique latine. On va y venir, on va s'installer là, regardez, il y a des fauteuils rouges, devant des chaises rouges plutôt, dorées.
Jardin à la française, qui est merveilleux. Ouais.
Installez-vous, je vous en prie.
Merci.
On vous retrouve ici donc pour un petit livre inattendu paru chez Robert Laffont, Identité nomade. C'est un recueil de textes fondé sur vos conférences et interventions à travers le monde. Vous confiez beaucoup de vous et notamment votre service militaire dans le civil, d'abord en Thaïlande, puis au Mexique, suite à votre expulsion de Thaïlande, parce que quand vous étiez là-bas, tout jeune, vous avez évoqué le trafic d'êtres humains.
Oui, c'était, ce n'était pas du tout prévu, mais j'habitais dans un endroit et la femme de ménage de cet endroit, une jeune femme qui parlait plutôt bien l'anglais, à ma question « Mais pourquoi vous faites ce travail ?» elle m'a répondu « Je ne suis pas ici pour travailler, je suis ici pour retrouver ma sœur. Ma sœur a disparu du village de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et je pense qu'elle a été vendue dans un bordel à Bangkok. » Et elle s'adressait à moi, elle pensait que peut-être je fréquentais ces endroits. Moi, je ne les fréquente pas du tout. Mais j'avais un ami qui les fréquentait un peu, et je l'ai chargé de retrouver la sœur de cette personne. Et il a dû, un jour, il m'a dit, je crois que je l'ai retrouvée. Je l'ai signalé à cette dame. Et à partir de là, elle a disparu. Alors je pense qu'elle a dû retrouver sa sœur, version optimiste. Elle a retrouvé sa sœur et elles sont reparties, bras dessous vers Chiang Mai.
Et vous, on vous a expulsé ?
Et moi, du coup, on m'a expulsé parce que il y a eu une plainte de la police. Et ils ont fait une petite recherche, ils ont vu que j'enseignais les sciences politiques à l'université bouddhiste, et parmi les textes, j'avais mis Mao Tse-tung. Et c'était interdit en Thaïlande. Donc, ils ont utilisé tout ça, ils se sont plaints au gouvernement français. Malheureusement, De Gaulle n'était plus là, sinon il aurait dit, oh, c'est pas important. Mais là, à cette époque, c'était important, on m'a dit, faut retourner à la caserne.
Et là, vous dites non, parce que je suis aussi britannique. Ils vous disent, on va trouver une solution, ils vous envoient au Mexique. Et là, finalement, c'est une révélation pour vous, Jean-Marie, le Mexique. L'Amérique latine, vous la découvrez à ce moment-là.
Oui, en effet, je suis arrivé presque dans la continuité. J'ai quitté Bangkok, changé d'avion à Paris. Je débarque à Mexico au mois d'août et j'ai l'impression d'arriver en Thaïlande. Parce que tout le monde a un type très fortement marqué, c'est un type indien. Et parce qu'il pleuvait à torrents, on aurait cru la mousson. J'avais l'impression de changer un peu de quartier, mais d'être dans le même pays. Et puis petit à petit, le Mexique s'est ouvert à moi, ou moi je me suis ouvert au Mexique. Et j'ai découvert une société extraordinaire, d'une richesse incroyable. J'étais très très heureux de ce changement. Et je remercie beaucoup le chef de la police, l'ambassade de France, tous ceux qui ont contribué à ce changement.
De l'époque. Dans votre recueil de nouvelles à vers, vous parliez des indésirables, de ceux qui sont à la marge de la société, comme le fait d'ailleurs ici la photographe chilienne Paz Errázuriz, avec son exposition qui témoigne sur la vie des marginaux. Vous revendiquez d'ailleurs dans les textes de votre livre une identité nomade. Vous vous situez à l'écart de la norme et des nationalités. Vous avez aimé le travail de Paz, hein, d'ailleurs, que vous avez vu ici.
Oui, je viens de découvrir cette exposition qui est là depuis quelques mois, je crois. Et j'étais absolument subjugué par ces images. Elles sont très, très fortes. Ce sont des images qui nous interrogent. Ces visages qui nous regardent nous posent une question. Et c'est évidemment cette question de qui suis-je, pourquoi suis-je sur Terre. Et comme il s'agit de personnes très marginal. J'ai cru comprendre que le thème de ces photographies, c'est la marginalité. Et ça, ça me parle beaucoup. Ce qui me frappe davantage, c'est ce qu'exprime cette exposition, et peut-être ce que j'ai voulu dire aussi dans ces nouvelles que j'écris, c'est que l'identité, ça n'est pas ce que les gens voient. C'est ce qu'on est profondément soi-même. Et en fait, on n'est jamais plus près de l'identité que lorsqu'on interroge les autres, quand on les regarde en face ou quand on rencontre leur regard. C'est là que naît l'identité.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, ici à la Maison de l'Amérique latine. Nous avons fait de nombreux voyages ensemble, hein. Celui-ci, il était plutôt rapide, mais pour des émissions, on a parcouru un peu le monde. Vous racontez d'ailleurs dans ce livre des histoires et anecdotes que vous avez déjà racontées dans la librairie francophone, et vous insistez souvent sur la notion de frontière qui nous dépasse, qui vous dépasse. Vous déplorez cette obsession des frontières, aux États-Unis notamment, et vous dites, même Barack Obama, qui a été un grand président, a fermé les frontières et il a déporté des immigrants. Il les a renvoyés de l'autre côté de la frontière.
Oui, c'est le grand scandale de notre temps. C'est d'imaginer qu'un trait tracé sur le sol ou sur les cartes d'état-major va suffire à départager les humains. Les humains posent des questions, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'aliments, de métiers, ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin, les hommes, de rencontrer des femmes, les femmes de rencontrer des hommes. Donc tout ça, ça nie les frontières, en fin de compte. Le désir nie les frontières, et quand on impose les frontières, on casse le désir, et on enlève, je crois, ce qui est la principale raison d'être des humains sur Terre, c'est leur fantaisie.
Dans ce livre « Identité nomade », il est question de nombreux pays. Il y a un pays dans ce monde qui est, dites-vous, rempli de magie. C'est le Maroc. Vous y êtes allé dans les années 50 pour la première fois avec vos parents. C'est votre papa qui voulait voir Marrakech. Et vous découvrez à ce moment-là les injustices de la colonisation et aussi la musique gnawa qui vous marque tout particulièrement. Vous avez ensuite découvert ce pays grâce à votre épouse, Jemia. Et à chaque fois, c'est une grande émotion qui vous envahit. Pourquoi pas? Parlez-vous de magie à propos de Marrakech ?
Quiconque va au Maroc et quiconque arrive sur la place de Jemaa el Fna, la place centrale de Marrakech, a le sentiment d'être au cœur de la magie. C'est un monde dans lequel la modernité la plus extrême, c'est-à-dire le tourisme avec tout l'apparat du tourisme et les voyages organisés, tout ça se télescope avec le monde réel, le monde vernaculaire, le monde terrien du Maroc. Et quand vous êtes devant la place de Jemaa el-Fna, vous avez l'impression de voir déambuler à la fois des fantômes du temps passé, c'est-à-dire les fantômes des grands résistants à la colonisation africaine, comme a été Mael Aynin, qui a été le grand émir, le grand chef qui a résisté aux Français et aux Espagnols, et d'autre part les contemporains qui cherchent à maintenir leur raison d'être dans cet endroit, donc qui cherchent à survivre et qui vivent vraiment de façon assez marginale.
L'Afrique, qui est très importante pour vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous avez vécu une partie de votre enfance en Afrique subsaharienne. Et là-bas, vous découvrez une liberté inédite. Vivre pieds nus tout d'abord, aller nager dans la mer, rencontrer d'autres enfants moins puérils qu'à Nice, d'où vous venez. Quel était le sens de cette liberté pour vous à ce moment-là ?
On ne m'a pas donné le choix. C'était cette liberté ou rien, parce que c'était la fin de la guerre. Nous vivions, ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi, dans des conditions assez difficiles. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'avenir. Et mon père nous a appelés, il nous a dit « il faut venir au Nigeria, parce que là vous sortirez de la prison qui est devenue l'Europe et vous connaîtrez la liberté ». Mais j'ai eu la chance de ces années de petite enfance dans un pays de totale liberté et de totale générosité, où il y avait tout.
Et un choc culturel pour vous, Jean-Marie, c'est vrai que c'est à ce moment-là, finalement, que vous vous ouvrez sur le monde, que votre regard se porte sur le reste du monde, en dehors de l'île Maurice, dont vous êtes originaire, et la ville de Nice. Et vous notez que le flambeau de la littérature engagée, disparu selon vous en France, a été repris par les écrivains africains et les latino-américains. Alors nous sommes à la Maison de l'Amérique latine ici, mais c'est vrai, vous racontez, vous citez ces auteurs-là, du Congo au Mali, en passant par le Mexique et le Pérou, le Chili aussi, il y a eu une forme de combat similaire, chez les créoles également.
Oui, parce que aussi bien l'Afrique que l'Amérique latine ont été soumis à l'épreuve très cruelle et très injuste et finalement d'une sauvagerie extraordinaire qu'a été la colonisation de l'Amérique, l'extermination des Indiens d'Amérique, le remplacement d'une société ancienne et extrêmement évoluée par une société extrêmement barbare où le seul dieu était l'or. Et en Afrique, quand on lit le journal d'André Gide au Congo, on voit ce qu'était la colonisation africaine. Et moi, je n'avais pas lu André Gide à ce moment-là, mais j'ai vu tout ce qu'il décrit, c'est-à-dire les Africains enchaînés, marchant le long de la route, pour aller construire les villas des district officers anglais, les jugements très sommaires qui étaient effectués, ce sentiment d'être devant un crime lent et permanent.
Et les auteurs ont pris le relais, ont pris le flambeau. Ils ont témoigné aussi à leur tour, encore aujourd'hui. Vous citez Samy Tchak, par exemple. Vous citez Maris Condé. Vous en citez plein comme ça, qui ont eu un véritable rôle dans la littérature mondiale pour alerter le monde.
Oui, ce qui est merveilleux, c'est que beaucoup d'entre eux ont utilisé la langue des maîtres pour s'exprimer. Je veux dire que Samy Tchak ou Abdourahmane Ouaberi, ils écrivent dans la langue française, mais ils transforment cette langue, ils en font quelque chose de nouveau, d'autre, d'assez dansant, d'assez exalté et de très enthousiasmant. Ils inventent des mots, des tournures. Et de la même façon, en Amérique latine, quelqu'un comme Juan Rulfo, qui pour moi est le summum du roman en Amérique latine, celui qui a tout inventé, qui a inventé la magie, qui a inventé la violence nécessaire de la vie, qui a inventé la cruauté basique des rituels et qui a inventé cette résistance du peuple à l'oppression de la société moderne, c'est-à-dire, dans le cas de Rulfo, au marxisme qui voulait s'imposer au Mexique. Rulfo a été le grand résistant à cette imposition. Donc ces auteurs ont inventé un nouveau pays et c'est de ça que je les remercie. C'est pour ça que je les aime tellement.
On va terminer avec la question de la langue et du langage, Jean-Marie Gustave. Il y a un passage amusant dans ce livre où vous racontez que vous ne comprenez pas les Parisiens quand ils parlent. Vous comprenez ceux qui ont l'accent canadien, l'accent marocain, l'accent du Midi, mais l'accent parisien, vous ne le comprenez pas. C'est une petite provocation. Ça, je peux vous parler avec l'accent du Midi, hein, si vous préférez.
Oui, c'est mon côté niçois, et je crois. Les Niçois ont toujours cette légère méfiance envers les gens qui parlent pointu, qui font des liaisons.
Ah bon?
Oui, ils sont assez méfiants à l'égard de ces gens.
Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
Mais j'ai souffert de ça aussi parce que quand j'ai grandi à Nice, mais je ne ressemblais pas aux Niçois. J'avais pas le type physique des Niçois. J'étais pas petit, agile et malin comme sont les Niçois.
Ils sont pas tous petits, mais
c'est vrai. Il y a des grands aussi. Donc là, j'ai été en train de véhiculer un préjugé absurde. Mais c'est vrai que le sud de la France a maintenu une certaine pas hostilité, mais une certaine méfiance envers ce qui est trop distingué, trop compliqué. Et la littérature, quand elle s'inspire de l'âme méditerranéenne, elle devient merveilleuse. Elle se remplit de musique et de vivacité.
Merci beaucoup, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Merci Emmanuel, merci. Et je tiens à vous dire que je suis toujours heureux de vous rencontrer parce que quand je vous lis et que vous parlez de ce que c'est, de ce que c'était et ce que c'est toujours pour un enfant de courir sur la promenade des Anglais en bousculant un peu les vieilles dames qui sont un peu hésitantes, et ça c'est quelque chose qui me parle.
J'en ai souvent parlé effectivement. Merci. Merci pour ce moment de radio exclusif Jean-Marie Gustave Le Clézio dans ce lieu inédit pour nous deux. On est ravis d'avoir été à la Maison de l'Amérique latine, un nouveau voyage ensemble pour la librairie francophone. Merci beaucoup. Identité nomade est paru chez Robert Laffont. À très bientôt ailleurs, quelque part.
Exactement, comme vous dites, ailleurs, à bientôt et au cours de nos prochaines rencontres.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Emmanuel.
Un extrait de Culture Kanak interprété par le groupe Roumadival, originaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation Stéphane Combe, avec Antoine Teboul à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret, Christophe Magère de France Inter avec Audrey Carme et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Un grand merci aux auditeurs français de nous suivre si nombreux chaque semaine le samedi et de faire de cette émission le programme numéro 1 en France, très loin devant la concurrence depuis la rentrée de septembre, selon les mesure médiamétrie. Merci à vous encore une fois. Bonne semaine surtout. Et la semaine prochaine, la grande auteure camerounaise Emily Boom, entre autres. Bonne semaine, bon week-end.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. Rapido Express, nous apprenons qu'Ottawa a adopté cette semaine sa nouvelle politique en immigration francophone. Le fédéral a annoncé en effet de nouvelles cibles en immigration francophone pour 2024, 2025, 2026. Ottawa espère ainsi attirer 6% de nouveaux arrivants francophones hors Québec. Alors, bonne chance. En effet, une étude du commissariat aux langues officielles révélait récemment que la non-atteinte des cibles en immigration francophone entre 2003 et 2021 avait contribué au déclin du français au Canada et un manque de 120 000 locuteurs du français au pays. Do you speak French, monsieur? Eh oui, nous avons appris que le gouvernement canadien veut recruter, tenez-vous bien, Madame, monsieur, des enseignants en Afrique. Ces gens rêvent en couleur, et oui, télévision tue, les tunnels mènent à Paris. Un article que j'ai bien aimé. Les questions de quête identitaire et de langue française en Ontario ont continué d'inspirer les auteurs de la série Paris-Paris, tout comme dans la première saison. Les personnages empruntent un tunnel qui les mènera cette fois de Paris en Ontario à Paris au Texas. Un article à lire absolument dans Franco-Presse. Et en Acadie, des écoles francophones déstabilisées devant l'arrivée massive de nouveaux immigrants. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi cette ruée vers l'Acadie. Pourquoi ? Allez, je remercie Radio France Internationale et toute l'équipe. France 24, TV 5 Monde, la Société d'Histoire de Toronto, DJ Deborah, salutations chaleureuses au professeur Élie Bouraoui. Georges Benoît, où est-il ces temps-ci ? Est-ce que vous êtes là ? Alors, je vous dis bien le bonjour. Je vous souhaite une très bonne semaine, madame, monsieur. Bon appétit si vous êtes à table. Que la force soit avec vous. Allez, je vous laisse avec DJ Jimmy Somerville. Comment te dire adieu ? Ah, vous vous souvenez cette grande chanson, belle chanson de Françoise Hardy qui fêtait ses 80 ans le 17 janvier. Les souffrances, hein ? Allez, je vous souhaite bon dimanche. Ciao, ciao, ciao !